France Culture.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans notre conversation littéraire. Une conversation qui va aujourd'hui de l'image au texte, de la photographie à la fiction, grâce à la collection Fléchette des éditions Sun Sun. Deux de ses auteurs et même son éditeur, trois personnages donc, mais en deux personnes, j'ai nommé Maëlys de Kerangal et Adrien Genoudet. Bonjour Maëlys de Kerangal.
Bonjour.
Et bonjour Adrien Genoudet.
Bonjour.
Maëlys de Kerangal, vous sortez d'un automne lumineux et triomphant avec la publication du roman Jour de Ressac aux éditions Verticales. Et vous revoici quelques mois plus tard dans une fiction courte assez spéciale intitulée La valise noire, qui commence par cette phrase « La nuit est tombée depuis longtemps sur l'Amérique du Nord » et s'achève sur ce nom, Paris. Un récit est tiré entre des destinations différentes, un récit mondial dans des modalités assez surprenantes. Mais commençons par vous, Adrien Genoudet, si vous le voulez bien, car vous êtes à l'origine de toutes ces publications dans la collection Fléchette, puisque vous en êtes le fondateur et directeur. Vous êtes par ailleurs romancier, auteur de deux romans très remarqués, L'Étreinte, d'abord paru aux éditions Inculte en 2017, puis Le Chant des Cris, paru au Seuil il y a 2 ans à la rentrée 2022. Quel est donc le principe de la collection Fléchette ?
Le principe de la collection Fléchette, c'était dès le départ de se dire que les archives de la planète, les images des archives de la planète, donc les 72 000 autochromes, les photographies couleurs, plus de 120 heures de films de ce fonds d'images, devaient vivre, devaient un petit peu passer le cap d'un autre type d'écriture. Donc l'idée, c'était de les proposer, en tout cas de les offrir à des autrices, à des auteurs, de leur donner la possibilité d'en choisir une, ce qui est très difficile, une image du fonds Albert Kahn, et de se lancer dans une écriture libre. Ça peut être un format documentaire, ça peut être un récit, un roman, de la poésie, pour essayer d'aller à la rencontre d'une image ou de lui donner une autre dimension, bien sûr, en lui donnant un autre type de langage aussi.
Alors nous avions eu la chance de recevoir dans la conversation littéraire Hélène Gaudy qui avait publié La Villa Zamir, qui était déjà dans cette collection. Alors ce qui surprend, on va décrire un peu ces livres pour les auditrices et les auditeurs. Donc c'est un petit format, un format moyen. Il y a une photographie encartée au début, dans la première page du texte, une reproduction donc d'un de ces fameux autochromes sur lesquels nous allons revenir. Et puis surtout, la collection est fléchette parce que la couverture est trouée de petits trous, comme si on avait joué aux fléchettes avec. Et pourquoi? Alors quel est le rapport entre la photographie et les fléchettes? Alors j'ai imaginé plein de choses, c'est que c'était un peu comme des trous pour voir dans la chambre, faire passer la lumière,
pourquoi pas. On n'y a pas pensé, mais pourquoi pas. En tout cas, déjà dire quand même que c'est en effet un objet livre. On cherchait à faire un objet livre, c'est-à-dire avoir vraiment la possibilité de voir l'image, de la détacher, de respecter aussi quelque part en tant qu'archive. Et tout ça, et je dois le dire quand même, tout le travail de l'éditrice de chez Sun Sun, donc c'est une Pévrier avec qui je me suis allié pour monter cette petite collection, et qui a eu un peu cette idée d'aller jouer avec le format du livre. Alors Fléchette, c'était un peu un mythe à la base, qui est un mythe de l'histoire d'Albert Kahn, qui serait de dire que quand il envoyait ses opérateurs aux quatre coins du monde, donc dans les années 1908-1912, il y avait cette possibilité de choisir la destination, enfin de jouer avec la planisphère et donc de choisir un lieu, une destination, en lançant une sorte de fléchette, par exemple. Et que partant de là, on allait là-bas, donc, et on y allait y faire des images. Après, ça, c'est un mythe, parce qu'on, évidemment, on s'est absolument pas trouvé, enfin, j'ai absolument pas trouvé de référence dans les archives. Ce qu'on sait, c'est qu'il prenait quand même Albert Kahn du temps, vers 5 heures du matin, avec les opérateurs, autour d'une table où il y avait une planisphère et où il choisissait, il pointait les lieux où on pouvait se rendre pour aller prendre des images à l'autre bout du monde. Voilà.
Il y a un petit côté un peu Jules Verne, presque, on les imagine là, dans une conférence, un peu partir pour le bout du monde. Ouais. Mais comment est-ce qu'ils choisissaient alors les endroits concrets ?
Concrètement, c'est assez trouble. On a peu d'indications d'archives, on a que des récits rapportés d'après la mort d'Albert Kahn, donc après 1940. Donc c'est assez difficile de le savoir. Ce qu'on sait, c'est quand même qu'il l'avait allié avec lui, à ce projet, un géographe, Jean Brune, avec qui il a travaillé. Et Jean Brune avait quand même des envies précises de lieux où il voulait des photographies type d'habitation, d'occupation de l'espace par les hommes, etc. Donc il y a eu un peu quand même des choix plutôt orientés de la part de Jean Brune. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des territoires type les Balkans qui ont été énormément photographiés dans le fond des archives de la planète, parce que c'était une volonté vraiment de Jean Brune. Ensuite, il y a une facilité, disons, de proximité. Ils sont allés beaucoup plus en Europe, pour des questions économiques, bien sûr. Et puis, beaucoup dans des pays colonisés, donc beaucoup l'Indochine, par exemple. Là aussi, parce que les liens aussi étaient plus évidemment faciles pour envoyer les opérateurs entre la France et ces lieux-là.
À Maëlys de Kerangal, comment est-ce qu'on choisit une destination dans ce cas-là? Est-ce que vous avez lancé une fléchette sur une planisphère? Ou un planisphère, comment est-ce que vous avez fait pour tomber sur cette photo? Parce qu'on imagine que en 70 000 autochromes, comment est-ce qu'on fait pour choisir?
C'est un peu la gageure de la collection. Moi, j'avais envie d'écrire quelque chose de précis, en fait. J'ai plutôt cherché dans les fonds une image qui puisse porter ce que je voulais dire.
Un récit que vous aviez déjà.
Je voulais rencontrer une image qui puisse faire naître ce texte que je portais avant, en fait. Et j'ai cherché tout de suite dans les autochromes d'Égypte, parce que voilà, je voulais parler d'un ami égyptien. Et je me suis d'emblée focalisée sur ces autochromes, mais il y en avait beaucoup. Ce qui est intéressant, je trouve, dans les collections d'Albert Kahn, c'est qu'il y a une dimension ethnographique étonnante. Les costumes, les traditions, certaines fêtes sont extrêmement bien documentées. Évidemment, l'habitat est extrêmement bien documenté. Et aussi quelques monuments, mais pas tant. Vous voyez, c'est pas touristique. Dans les autochromes du vieux musée du Caire, il y avait cette vitrine qui était pleine de statuettes. Quelque chose d'assez fantomatique, d'assez spectral est revenu. C'est aussi des images qui ont cette transparence, parce que l'autochrome, c'est aussi une matérialité de l'image extrêmement fascinante. C'est-à-dire qu'il y a cette transparence qui, justement, peut faire penser à plusieurs couches, hein, plusieurs strates de mémoire.
Adrien, je me disais, qu'est-ce que c'est qu'un autochrome? Alors expliquez-nous, qui est un spécialiste de l'histoire de la photographie.
Alors déjà, on dit une autochrome. C'est féminin. Alors une autochrome, c'est un procédé photographique, c'est le premier procédé photographique dit de couleur directe, de prise de vue en couleur directe, donc qui a été commercialisé par les frères Lumière dès le début des années 1910, enfin dès la fin des années 1900, mais en tout cas massivement à partir des années 1910. Et donc c'est en effet des petites plaques de verre. La taille varie, mais en tout cas c'est à peu près 8 sur 12 centimètres. D'ailleurs, on retrouve dans la collection Fléchette, l'image qui est reproduite est vraiment en 1-1, c'est-à-dire, c'est-à-dire la reproduction exacte de la taille d'une autochrome. C'est pour ça d'ailleurs que quand on détache l'image et qu'on l'a, disons, en main, on a aussi quelque part la taille de l'autochrome en main. Mais bien sûr, on n'a pas sa matérialité, qui, comme tu disais Maëlys, qui est vraiment presque la chose la plus spectaculaire quand on les consulte, quand on les voit. C'est donc des petites plaques de verre donc transparentes qui servaient donc à être projetées en grand sur donc un écran, un mur. Par un procédé donc de projection. Et surtout, ce qui est fascinant, c'est que la recherche pour arriver à cette prise de vue en couleur directe a nécessité énormément d'années de recherche pour les frères Lumière. Et donc, ils ont réussi à trouver, à fixer donc les couleurs en insérant donc entre les deux plaques de verre et du bromure d'argent, bon, c'est technique, mais plusieurs millions de grains de fécule de pommes de terre colorés en trois couleurs. Et donc, dans ce frottement, dans le fait qu'elles sont serrées, ces millions de fécules de pommes de terre, au moment où elles entrent donc dans l'appareil, que la lumière rentre dans l'appareil photographique, et puis après, évidemment, avec un système de développement, de bain, etc., on se retrouve donc avec cette image colorée, en couleur directe, pastel un peu maintenant avec le temps, mais c'est ce qui les rend aussi si belles, et donc qui les rend aussi fragiles, aussi même, c'est aussi spectaculaire de se dire que ces opérateurs qui sont allés à l'autre bout du monde avec tout ce matériel, ces caisses, etc., à prendre les paquebots et autres, aient réussi à les ramener, en ramener en tout cas 72 000, qui sont encore visibles aujourd'hui.
Le traitement chimique était fait sur place, c'est-à-dire une fois que l'opérateur, parce que ces plaques de verre, il fallait donc les insoler, il fallait prendre la photo, on va dire, et ensuite il fallait faire le traitement immédiatement.
Voilà, il y avait un développement qui était fait sur place, puis un deuxième développement qui était fait plus tard. Après, en termes techniques, c'est assez...
Ça devait être très complexe, on imagine que les opérateurs donc envoyés par Albert Kahn étaient des gens qui voyageaient un peu avec des très grosses valises, pour
absolument,
le coup, parce qu'il fallait toutes ces plaques de verre vierges.
C'est ça. Et en plus, les usines Lumière commercialisaient les autochromes par 5 ou 7. Donc, encore une fois, il faut imaginer des boîtes de 5 ou 7 autochromes. Souvent, elles étaient doublées quand même. Donc, une mission en général pouvait aller à plus d'une centaine de vues quand même. Donc, après, oui, il y avait donc les malles, bien sûr, de voyage, les malles pour l'appareil, hein, à proprement parler, les malles avec tous les bains et tout ce qui est nécessaire au développement. Donc, oui, ils étaient extrêmement chargés, ce qui en fait d'ailleurs des, bien sûr, des sortes de chasseurs d'images, des sortes d'aventuriers. Quand je pense à, par exemple, Stéphane Passet, opérateur donc des archives de la planète, qui va en Mongolie en 1913, c'est une mission complètement sidérante, parce que on est dans un pays où il se déplace à cheval, en âne, en radeau, etc.
Et Albert Kahn lui-même, donc ce banquier qui se passionne pour l'exploration de la planète, en réalité n'a pas photographié lui-même.
Non, il n'a pas photographié lui-même, et c'est même d'ailleurs ce qui est aussi passionnant dans son histoire, c'est qu'il a... Il fuyait même les photographies. On a beaucoup d'images de lui où il se met sur le bord ou alors où il essaye de fuir l'image elle-même. Et non, il n'a pas photographié lui-même. Il est banquier à la base et il est né en 1860. Et il décide de faire ce projet de dépense complète hein, de toute sa fortune, parce que donc il était un des hommes les plus riches du monde à ce moment-là. À la fin des années 1890, début des années 1900, il fait un tour du monde en 1908. Et à partir de là, il revient et il décide de, quelque part, dilapider sa fortune pour archiver le monde en images, voilà. Sans prendre d'images lui-même, oui. Donc il embauche des opérateurs.
Il envoie des yeux.
Exactement.
Il envoie
des yeux aux quatre coins du monde.
Ouais. Mais c'est pas forcément systématique. C'est-à-dire qu'il s'est pas dit, non, on va mettre toute la planète en photo, puisqu'il y a ces fameuses réunions où on dit, on va aller photographier là, là, là ou là.
Oui, enfin, de toute façon, c'est aussi ce qui fait que les archives de la planète, à proprement parler, et est un projet mystérieux, mais aussi un projet important, parce qu'il est surtout inachevé, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'en 1929, Albert Kahn prend très frontalement la crise de Wall Street, enfin le crash de Wall Street, et donc perd quasiment toute sa fortune. Et donc, peu à peu, les missions s'éparpillent et finissent par disparaître. D'ailleurs, c'est assez passionnant aussi, c'est que la dernière grande mission photographique des archives de la planète, après avoir envoyé des opérateurs dans le monde entier, finit à l'exposition coloniale de 1931, donc à Vincennes, dans ce monde en miniature, ce monde enfermé aussi. Donc c'est assez surprenant que cette dernière mission, que c'était pas prévu, vu que donc le projet est inachevé, fait que bien sûr qu'on peut quand même imaginer que la base du projet était de vouloir quand même photographier le monde dans son entier, mais évidemment on n'a qu'une portion du monde, portion congrue du fait de la crise, oui.
Mais Adrien Genoudet, avant d'en venir à la photo que vous avez choisie, qu'est-ce qui faisait de ces autochromes? Est-ce qu'il y avait des projections organisées? Est-ce qu'on les montrait? Parce que si c'est fait pour être projeté sur un grand écran, on imagine que ça pouvait donner lieu à toute forme de reconstitution d'endroits de la planète.
On revient toujours à cette question du mystère, vraiment, parce que pour avoir travaillé beaucoup dessus, j'avais fait ma thèse sur le sujet, on a peu d'archives qui nous permettent de comprendre finalement même la destinée, le désir, de monstration, comme on dit, de ces images. Donc, elles sont restées plutôt enfermées dans des boîtes, quelque part, ces images. Donc, il y a des projections qui ont été organisées dans ces propriétés à Boulogne, qui sont maintenant le musée Albert Kahn. Donc, on connaît des projections qui sont plutôt, d'ailleurs, mondaines, aristocratiques, etc. Mais on n'a pas du tout d'éléments qui nous permettent de savoir, et on le sait d'ailleurs à peu près certainement, qu'il n'y a pas eu de projection, ni publique, ni même en dehors de la France, pendant la période Kahn.
Oui, je voulais dire, ce qui motive cette entreprise incroyable, c'est donc pas de montrer les images, mais alors on est très troublé quand même que tout ça traverse quand même ce conflit de la Première Guerre mondiale, qui est un conflit extrêmement, évidemment, meurtrier, ce grand carnage. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il a fait ça aussi pour préserver, dans l'idée d'une disparition, de documenter un monde qui allait disparaître? Est-ce qu'il n'y a pas cette tension-là aussi dans ce travail, de retenir ce qui va être englouti par l'archive, en fait? Parce qu'on a du mal à penser qu'on est juste dans une accumulation d'images. Il y a une tension aussi au cœur de tout ce fond, non?
Complètement, oui. Mais de toute façon, on sait que, encore une fois, on sait peu de choses, mais en tout cas, dans quelques lettres, on sait que Albert Kahn a déclaré qu'il cherchait justement à retenir, ayant peur de la disparition quelque part du monde. Donc il y a véritablement cette volonté de faire des archives volontaires. D'ailleurs, le titre même, Archives de la planète, c'est l'intitulé dès le départ. Donc il y a vraiment cette idée d'enfermer dans un lieu toutes les images du monde à un moment donné du temps, et en effet à un moment donné qui est à l'instant du danger, quoi, quelque part. Et c'est vrai que c'est encore une fois presque un hasard qui traverse le fond que d'être traversé directement par la Première Guerre mondiale, ce qui fait qu'il y a la...
Parce qu'il commence 20 ans avant, en fait,
voilà,
en réalité.
Il commence vers 1908, et ça commence pas 20 ans avant, ça commence 1912, finalement, vraiment.
D'accord, donc c'est vraiment juste avant.
Voilà, juste avant. Il y a presque... un état des lieux avant la Première Guerre, puis après d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a tout cet aspect ethnographique qui est en effet passionnant. Mais on oublie qu'une grande majorité des images captent beaucoup de ruines, justement, absolument, de l'Europe, quoi. Il y a toute une partie en ruines qui est photographiée.
Et donc 72 000 clichés. Comment est-ce qu'on choisit là-dedans, justement? Est-ce qu'on se laisse aller? Comme Maëlys, on arrive en disant, moi je veux ça, il me faut tel genre de propos, une photo égyptienne. Hein, ou est-ce qu'il y a des auteurs qui ont des façons très différentes de choisir, ou tout le monde arrive déjà avec une idée?
Donc on a fait 12 livres pour l'instant. Ça a pas mal varié, finalement. Je sais par exemple que Marie-Hélène Lafont avait déjà entreaperçu son image quelque part, qui est donc une image prise à Saint-Flour. Elle avait déjà entreaperçu cette image dans une autre publication, puis je lui avais proposé le texte, elle est revenue vers moi, elle m'a dit « mais est-ce que cette image est une image du fond Albert Kahn ?» Et j'ai fait « mais oui, banco, il faut y aller ». Donc elle a fait un texte à partir de ça. Il y a une recherche assez commune, je le vois, qui est, on le fait tous en fait, donc sur le site du fond Albert Kahn, les collections Albert Kahn, où tous les auditrices, auditeurs peuvent aller voir. Il y a quand même une petite nostalgie à aller voir à quoi ressemblait chez nous, d'où on vient, voilà, dans les années 20, 10, etc. Donc beaucoup d'autrices, auteurs vont quand même faire un peu cette première démarche presque de retour sur les lieux ou de retour chez soi, avant, des fois, en effet, de partir beaucoup plus loin. C'est pour ça d'ailleurs que c'est intéressant,
oui,
que ça ramène des récits intimes.
Ça se resserre autour d'une zone, mais au départ, on aime flâner, on aime se promener dans le fond.
Et Adrien Genoudet, alors vous, comment en êtes-vous arrivé à cet enfant vu de dos, qui est donc une autochrome de Léon Buzy, photographe 1874-1951, prise en Indochine française et plus précisément dans un hôpital. Qu'est-ce qui vous a, vous, attiré sur cette série-là?
Alors déjà, parce que je ne savais pas que c'était une série, mais quand je faisais ma thèse, c'était une image sur laquelle je suis tombé plusieurs fois. C'est-à-dire que justement, j'avais une... je peux le dire quand même, une sorte de fascination presque visuelle, mais aussi nostalgique de voir toutes les images du fond Albert Kahn quand je les regardais. Il y avait quelque chose comme ça qui m'attirait, qui me laissait souvent, oui, porté par ce monde d'avant, ce monde d'hier. Voilà, il y avait quelque chose de très beau. Et en même temps, j'étais quand même assez attaché par un peu ce que je savais, ce que je voulais savoir du fond Albert Kahn et de Albert Kahn, c'est-à-dire cette idée quand même plutôt humaniste qu'il y a derrière dans cette prise de vue massive d'images. Et j'ai bien sûr de plus en plus compris que le fond est évidemment plus complexe que ça, et notamment traversé de très nombreuses questions coloniales, de regards coloniaux très clairs, qui sont d'ailleurs encore à discuter et à débattre aujourd'hui, je trouve. Et cette image me revenait, m'a sauté aux yeux plus d'une fois, parce que en effet, elle sort un peu du lot. C'est un enfant décharné qui est face à ce mur bleu à Hanoï, et qui, bien sûr, voilà, nous met face à la souffrance, bien sûr, à la douleur des autres, à cet enfant, nous met face à sa propre douleur, et bien sûr, nous met face à ce problème. En plus, moi, je suivais beaucoup les opérateurs dans mon travail à un moment.
Enfin, suivez les opérateurs, c'est-à-dire les voyages, pistez, de leur voyage, ouais, à l'époque, voilà, vous pistiez où, ouais, savoir où vous allez.
Et puis j'en ai même reproduit quelques-uns au Japon, ou d'ailleurs au Vietnam, et donc j'avais besoin de me confronter à ce regard-là, c'est-à-dire, quel est cet homme, Léon Buzy, qui, à un moment, se retrouve à photographier cet enfant et qui, en effet, en plus, en fait une série qui est extrêmement, alors problématique, mais extrêmement, oui, je trouve douloureuse à l'œil. Et en même temps, et c'est tout le problème, nous confronte toujours à une autochrome. Donc, il y a quelque chose qui est quand même, de façon assez surprenante, c'est assez beau quand même. Ce bleu est beau. Le bleu de l'image et nous saute quand même aux yeux. Même dans sa composition, qui est très picturale, ça arrive très souvent chez les autochromistes. Il y a cette idée quand même de composer, bien sûr, son image. Donc, cette image est belle et en même temps, elle est extrêmement problématique. Donc, j'avais envie de me confronter à ça.
Cette image est problématique, il s'agit donc d'un enfant d'une dizaine d'années, de dos, nu, face à un mur, avec une certaine matière dans la photographie en tout cas, d'un bleu assez inquiétant, puisqu'il oscille entre le bleu extrêmement clair, et puis de plus en plus foncé, plus on s'en va vers la droite de l'image. Alors, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on va découvrir au fil du texte, c'est que c'est une série de photos médicales en réalité.
Oui. Alors, ce qui est aussi quelque chose qui est important dans le fond Albert Kahn, c'est bien sûr les légendes d'inventaire. Donc, les opérateurs rentraient de mission et écrivaient leurs légendes pour décrire l'image. Et donc, d'ailleurs, ça donne là aussi des choses très surprenantes avec le temps. Et là, en effet, l'enfant n'est pas du tout nommé. Ce qui arrive dans les images du fond, on a le nom des personnes photographiées. Donc, l'enfant n'a pas de nom, mais il est caractérisé par le pian, donc qui est cette maladie de peau, qui semble donc être le sujet de l'image, finalement, vu que l'idée est de photographier la peau de l'enfant plutôt que l'enfant lui-même.
C'est peut-être un des rares livres de la collection à reproduire plus d'une image, puisqu'il y en a une au départ, et puis on va découvrir d'autres au fur et à mesure où on avance dans le texte. Cet enfant, en fait, vous permet de construire le texte sur la réminiscence d'un autre enfant au Cambodge, aujourd'hui, qui a quelque chose à voir, en fait, avec cette réalité coloniale. Et vous écrivez... Il n'y a rien de plus déchirant que de voir un enfant qui n'a pas conscience de ce qu'il porte. Et cet enfant que vous voyez au Cambodge porte un casque de la Wehrmacht, un casque de l'armée allemande de la Seconde Guerre mondiale, au milieu du Cambodge. Et cette honte que vous ressentez pour lui, en le voyant, ou en tout cas dans cette incompréhension de ce qu'il porte, un symbole extrêmement fort en Europe, mais qui lui ne lui fait rien... vous fait rentrer dans ce texte.
Oui, il y a eu un moment où je me suis dit que de toute façon, il fallait quand même prendre à bras-le-corps le fait que moi aussi, j'avais été, entre guillemets, un opérateur en ex-Indochine, donc au Cambodge, quand je suis allé tourner un film en 2015, et que plusieurs fois, alors que j'avais pas du tout, évidemment, encore vu les images de l'enfant vu de dos, j'avais été très souvent traversé par le problème, très simplement, de filmer, moi, en tant qu'homme blanc, des enfants, des gens dans la rue, et notamment à Phnom Penh ou ailleurs, à Kompong Cham, notamment dans la région autour de Phnom Penh. Et j'avais toujours ce problème du regard, de comment poser une caméra, comment filmer les personnes, bien entendu. Et puis, il y a eu plusieurs événements vraiment visuels de ce type, qui ouvre le livre, qui a été un jour, en effet, de laisser tourner une séquence et où un enfant est arrivé à vélo au fin fond du plan, justement, mais au fin fond des rizières. Et plus il s'avançait, et plus, en effet, on a constaté que cet enfant portait un casque de la Wehrmacht. Et peu à peu, je me suis rendu compte, enfin, à force, qu'il y avait tout un commerce au sein du Cambodge, notamment dans le marché russe à Phnom Penh, de tout ce fatras un petit peu des vêtements de la Wehrmacht, ou en tout cas de l'armée allemande ou de l'Allemagne nazie.
Oui, oui, des souvenirs nazis en général. Il y a même des portraits d'Hitler, dites-vous, de Himmler, dans ce marché opus. Est-ce que c'est pas une métaphore de l'histoire assez magnifique, finalement, tout fini dans des fatras exportés à l'autre bout du monde?
Oui. Oui, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Enfin, je trouvais ça assez intéressant, surtout, moi, un peu génération mémoire de la Seconde Guerre mondiale, de voir que nous, on avait évidemment épuisé, quelque part, ce passé, notamment sur tous ces vêtements et ces éléments à proprement parler, et de les retrouver dans un autre monde, à l'autre bout du monde, où là, les enfants peuvent en fait acheter ça comme un casque de vélo ou comme une vulgaire antiquité, sans avoir justement ce référentiel de l'horreur aussi derrière, qui était pourtant, nous, constitutif de notre regard. Il y avait là, je ne sais pas si c'était une pensée de l'histoire à proprement parler, mais en tout cas, il y avait une douleur justement inversée qui remontait à ce moment-là.
Eh bien d'abord, je suis resté à Phnom Penh pendant 3 semaines après l'arrivée des Khmers Rouges, donc j'ai pu voir de mes propres yeux ce qui s'est passé à Phnom Penh même. Ensuite, j'ai traversé le Cambodge, j'ai fait 450 km en camion conduit par les Khmers Rouges à la frontière, où j'ai vu non seulement Phnom Penh, mais toutes les villes, tous les villages du Cambodge complètement déserts. Les Khmers Rouges ont vidé systématiquement toutes les villes, tous les villages, pour construire une société nouvelle où l'existence de la ville, l'idée même de la ville, est bannie, est abolie.
Vous parlez de déportation dans votre livre.
Oui, le terme déportation n'est pas trop fort, car c'est une petite partie de la population, donc les Khmers Rouges, qui représentaient peut-être 100 000 combattants, qui ont chassé les habitants de toutes les villes et tous les villages, une population qui représente 4 500 000 habitants sur un total de 7 millions.
On a souvent parlé de cette déportation. Est-ce que c'était une manœuvre qui entrait dans un grand plan? Est-ce que c'était voulu, décidé, ou est-ce que ça a été un vent de panique comme ça?
Non, c'était décidé et planifié. D'ailleurs, ce n'est pas récent. Ce n'est pas uniquement en 1975 que les Khmers Rouges ont commencé à déporter les gens des villes. Dès 1972, dès que les Khmers Rouges prenaient un village, ils déportaient les gens et les envoyaient dans la campagne. On a donné différentes explications. Officiellement, c'est pour subvenir aux besoins de la population. À Phnom Penh, il n'y avait pas de nourriture. Phnom Penh était ravitaillé par un pont aérien des Américains. Et donc, on devait les envoyer à la campagne pour les nourrir. Mais, à mon avis, c'est avant tout d'ordre idéologique. Comme disait un commissaire politique le 18 avril 1975, la ville est mauvaise, car en ville, il y a de l'argent. Où il y a de l'argent et du commerce, il y a de la corruption. Il faut que les hommes sachent qu'ils naissent du grain de riz. C'est une toute autre conception de la société qui est sous-jacente à cette mesure.
Nous venons d'entendre le prêtre François Ponchaud en 1977 présenter son livre « Cambodge, année zéro » aux actualités de France Inter. Adrien Genoudet, on retrouve François Ponchaud dans « Enfant vu de dos ». C'est quelqu'un qui vous a raconté lui aussi le Cambodge au moment justement de ce tournage.
Oui. J'étais allé le rencontrer à Kampong Cham, là où justement j'avais croisé l'enfant avec ce casque de la Wehrmacht. Et François Ponchaud est un personnage très très étonnant parce qu'en effet c'est un homme qui a connu sur le côté, en tout cas a écouté la radio tous les jours pendant le massacre, en tout cas le génocide Khmer Rouge. On a fait ce livre Cambodge année zéro et je voulais le rencontrer, mais alors, je voulais le rencontrer surtout parce que justement je voulais lui montrer les films de Léon Buzy du Fonds Albert Kahn. Il est en train de réécrire une nouvelle histoire du Cambodge, il a traduit la Bible en Khmer, c'est un homme qui est extrêmement érudit sur les liens entre le passé colonial mais aussi l'histoire du Cambodge actuel et passé. Et donc, je voulais lui montrer les films de Léon Buzy. Je n'avais pas encore vu l'image de l'enfant vu de dos à cette époque-là, donc j'ai pas pu lui montrer. Mais en tout cas, je voulais lui montrer la série de films de 1921, donc filmés pour les archives de la planète, qui sont des images assez classiques, hein, d'Apsara qui danse devant les temples d'Angkor, ou devant la terrasse des éléphants, etc. Et je lui ai montré, je l'ai rencontré donc à Kampong Cham, il tient une sorte d'orphelinat où il aide des enfants sur place, donc on retrouve évidemment cette figure des enfants. Et donc je raconte un peu dans le livre, parce que c'est un élément important, c'est qu'il m'a invité à les projeter, ces images, devant les enfants. Et je pensais qu'on allait vivre un grand moment de rencontre entre ces images et la jeunesse cambodgienne. Et il y a eu une indifférence générale, évidemment, devant ces images muettes et décalées de tout type de référentialité encore visuelle à ce moment-là, voir ces images-là qui étaient en fait des images coloniales elles-mêmes finalement, des publicités.
Est-ce que justement, est-ce que c'est pas un peu la clé de notre relation à ces images coloniales, c'est-à-dire que elles sont la réification en fait de ces enfants, de ces sujets, et en faisant comme ça des choses, des objets qu'on observe, elles perdent en quelque sorte leur réalité humaine.
Enfin, de toute façon, c'est une des grandes questions, enfin, qu'il va falloir se poser petit à petit face aux images des archives de la planète. On peut plus simplement les regarder comme des jolies choses du passé qui sont en effet toutes belles dans leurs couleurs directes, etc. Il y a quand même quelque chose à aller discuter maintenant face à ces images et face à ces sujets qui ont été photographiés. Quelque chose de très simple, c'est que les opérateurs, évidemment, dans les années 20, ont pris ces images et sont repartis. Il n'y a jamais eu un double photographique qui a été donné aux personnes photographiées. Il y a quelque chose où les images prises de ces personnes n'ont jamais été non plus les personnes redonnées. C'est-à-dire les personnes photographiées ne se sont jamais vues. Il y a toujours quelque chose que je trouve assez vertigineux là-dedans. C'est-à-dire que nous-mêmes, on se offre encore la permission de les voir. Or, ces personnes ne se sont pas vues, alors que on parle pas de photos volées, on parle de vraies grandes séances de pose et de grandes séances de photos à ce moment-là.
Vous avez cette très belle image, vous parlez du bleu, de ce bleu agonisant, de la douleur coloniale, Adrien Genoudet.
Oui, parce que le mur, le mur qui est photographié par Léon Buzy, nous saute aux yeux avant presque que l'enfant. On voit ce bleu qui domine. Et ce bleu, il est, je le trouve, comme vous l'avez dit, il est, on le sent déjà friable, on le sent déjà fragile. Il a quelque chose qui est presque imbibé même de quelque chose de douloureux, de dur. On pourrait dire qu'il y a quelque chose de l'ordre des larmes, de quelque chose qui pleure, quelque chose qui grince véritablement quand on le regarde. Et il me gêne autant que plus d'une image maintenant qui est censée nous faire la part belle à ces autres parties du monde, enfin à ces parties du monde où on a envie que ce soit beau quelque part, on a envie d'avoir des jolies pagodes, des jolies, enfin toute l'imagerie quelque part coloniale ou exotique bien sûr, dont nous avons hérité.
Alors Adrien Genoudet, Enfant vu de dos n'est pas vraiment une fiction, même pas du tout, c'est plutôt une sorte de documentaire écrit autour de ces images. En revanche, peut-être peut-on écrire aussi de la fiction à partir d'une autochrome.
Montréal, ville plurielle, française à l'est, anglaise à l'ouest, à partir de l'avenue du Parc et de Sherbrooke. Résidentiel francophone à Outremont, résidentiel anglophone à Westmount. Grec, au pied de la côte Sainte-Catherine, populaire à Papineau et à Longueuil, artistique de la rue Notre-Dame à la rue Saint-Paul. Montréal, ville frontière, où traverser une rue, c'est passer d'un univers à l'autre, d'une langue à l'autre, d'une architecture à l'autre, d'une cuisine à l'autre, d'un style vestimentaire à l'autre. ville d'immigrants depuis 3 siècles, où seuls les visages noirs sont à peu près absents. Où des barricades psychologiques créent des microcosmes italiens, grecs, allemands, pris en tenaille entre les 2 macrocosmes en perpétuelle tension, canadien-français, canadien-anglais. Montréal est pour les Anglais le dernier bastion avant la porte ouverte sur l'Ontario.
Maëlys de Kerangal, vous en entendre Jean Montalbetti dans une humagnétique sur France Culture de 1978 consacrée à Montréal. Montréal est un des lieux de cette valise noire. Maëlys de Kerangal, une femme dans un aéroport nord-américain attend sa valise. Qu'est-ce que c'est pour vous Montréal? C'est vraiment la ville globalisée justement qui finalement est un peu entre tout et au milieu de rien?
Alors c'est surtout l'aéroport qui est cet espace mondialisé dont on peut toujours s'étonner d'y retrouver sa valise. C'est vrai que le flux mondial des bagages en circulation est tellement important qu'on ressent toujours une forme d'appréhension devant le circuit à bagages. Et moi, j'avais envie... On a parlé d'ailleurs des valises des autochromistes et de la manière dont ils s'étaient chargés de tout ce qu'on charge dans des valises. On a parlé aussi de tout ce qui finit en fatras, en choses, hein, tous ces débris aussi. Et moi, j'ai porté... finalement, mon choix vers l'image d'une sorte de valise, puisque c'est une vitrine qui contient...
Décrivez-la, cette vitrine, justement, parce que là, je l'ai sous les yeux, vous la redonne, si vous voulez.
C'est une vitrine qui a été photographiée au musée du Caire en janvier 1914 par Auguste Léon, donc un autochromiste d'Albert Kahn. Donc ce qui m'intéressait, que c'était avant justement la guerre. Mais surtout, c'est l'image du... Alors pas vraiment du fatras, parce qu'elles sont debout, ces petites statuettes, ces petites figurines, mais l'idée d'une espèce de collection en désordre et en fait d'une accumulation de petites choses. Là, il ne s'agit pas de figures humaines, encore qu'il est question de notre humanité, puisque ça représente des dieux égyptiens dans leur diversité. Et parmi eux, il y avait ce dieu, cette divinité Khonsou, le messager. Et voilà, donc je suis rentrée en fait dans cette histoire en me focalisant un peu sur cette idée du contenant, donc une chose pleine de choses. Cette chose pleine de choses, c'est cet autochrome dans le vieux musée du Caire. J'aimais beaucoup l'idée que l'image soit assez peu distincte. Enfin, il y a aussi un désordre, il y a du fouillis dans cette image, dans cette collection d'objets. Et puis, je me suis aussi souvenue d'une valise qu'un ami m'avait prêtée quand j'étais au Caire, parce que je voulais rapporter des choses que j'avais trouvées là-bas lors d'un voyage en Égypte et d'un séjour au Caire. Et que je me suis retrouvée à Montréal, alors que cet ami était en train de mourir, avec sa valise. Et alors, tout d'un coup, voilà, c'est une valise qui a pris... qui est devenu un peu l'objet d'un espèce de conte, en fait. La forme d'une histoire, d'un objet qui, à la fois, qui ressemble à une espèce de sarcophage, cette valise noire, mais qui est aussi chargée des esprits. J'ai rapproché cette valise des esprits qui sont présents dans la vitrine pour construire, en fait, une espèce de texte de deuil qui tisse quand même des lignes entre le Caire, Montréal, et puis cette femme qui cherche à se souvenir aussi de cet ami. Mais Montréal, ça me semblait important aussi parce que ce qui m'avait surpris la première fois que j'y suis allée, c'est la place du Mont-Royal et la place du grand cimetière. C'est-à-dire qu'à Montréal, c'est une ville, effectivement, on passe d'une rue à l'autre, on change de cuisine, on change de culture, mais Montréal, c'est d'abord un mont, justement, une énorme colline couverte de tombes. Et pour moi, cette tombe de Montréal, elle faisait évidemment écho à cette petite vitrine dont les statuettes semblaient avoir été tirées des tombes, avaient été d'ailleurs tirées des tombes égyptiennes par des archéologues. Donc pour moi, il y a une espèce de connexion en fait imaginative, une espèce de correspondance qui m'a permis aussi de parler de cet ami d'Égypte et de cette valise noire et de ce messager, enfin de cette idée de messager.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Et Maëlys de Kerangal, comment est-ce qu'on aborde la commande? Parce que vous avez une idée de l'image, mais vous ne la connaissiez pas encore.
Non, pas du tout. Et alors, en fait, en ce qui me concerne, j'ai rencontré Adrien Genoudet et Céline Pévrier. J'avais fini d'écrire Jour de Ressac, donc il y a eu moins d'un an. Je savais qu'il y avait quelque chose que je sentais désirer écrire autour de la figure de cet ami. Et j'ai vu dans cette commande l'occasion peut-être de trouver l'image qui me permettrait de raconter cette histoire. C'est-à-dire que je suis allée vraiment à la rencontre d'une image qui me permettait de déplier cette histoire. Le livre tel qu'il est écrit, il n'existait évidemment pas du tout. Il s'est connecté avec cette image. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait pour moi tout l'intérêt de l'écrire. Mais je suis allée plutôt à la rencontre des archives. Je dirais avec un sentiment, avec ce sentiment de vouloir parler de la mort d'un ami et du fait que je me balade encore aujourd'hui avec cette valise qui était la sienne et avec tout ce que l'objet valise véhicule justement de mémoire, de souvenirs, de choses, et peut-être certaines formes de voyage. Et je me suis vraiment avancée vers ce fond avec un sentiment, mais peut-être que ça aurait pu être une autre image, mais c'est vrai que cette vitrine pleine de petites figurines, de petits esprits, avec un peu tout ce rapport des Égyptiens à la mort, la question des ouchepti, quoi, des répondants, ça m'a beaucoup intéressée et j'ai commencé à écrire. Alors c'est vrai que c'est curieux, on part de cette autochrome égyptienne et on se retrouve à Montréal, mais ça faisait aussi partie de l'intérêt du texte, de tirer ses flèches un peu aux quatre coins du monde. C'est un livre où il y a beaucoup de destinations.
Adrien Genoudet, alors comment est-ce que vous abordez les auteurs qui disent « Ah, cette photo-là, ah non, celle-ci », est-ce que parfois vous êtes obligé de dire « Oui, je sais pas, est-ce que cette image est vraiment... » Est-ce que vous orientez un peu les choix des autrices et des auteurs ou pas du tout?
Encore une fois, ça dépend, mais oui, ça arrive d'être confronté. Alors, pendant un moment, je proposais d'en choisir 5 et qu'ensuite on en discute. Maintenant, disons là pour ce qu'on a appelé la première salve, on parle de salve.
C'est un peu de fléchettes.
Ouais, c'est un peu militaire. Mais, ouais. Donc, je proposais de s'aventurer avec 5 pour ensuite restreindre le choix, peut-être un petit peu commencer à avoir en effet cette piste possiblement du ressenti ou sentimental pour aller vers un récit. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ça changeait à chaque fois, ce face à face avec le fond Albert Kahn. Donc, ça dépendait. Et par exemple, donc Hélène Gaudy savait qu'elle voulait aller vers cette partie du sud, près du Cap Martin, où justement Albert Kahn avait une maison aussi, et où elle avait passé une partie de son enfance. Donc elle avait cette recherche aussi d'un souvenir de lumière, un souvenir de couleur, donc elle retrouvait ça, donc elle a fait une sélection aussi à partir de là. Donc oui, on réoriente, et Maëlys, toi, il y a eu plusieurs dans mon souvenir.
Oui, en fait, il y en avait plusieurs, et je dois dire que j'ai perçu le fait que tu cherchais aussi à produire dans la collection quelque chose qui puisse être un peu une variation aussi, qu'on ne se dirige pas par exemple vers des autochromes qui figurent des monuments. Dans cette petite vitrine un peu bordélique du musée du Caire, mais tellement belle, tellement intéressante, tu m'as dit, non mais ça c'est bien, plutôt que, je ne sais pas, un paysage d'Égypte ou des toits du Caire qui m'intéressaient beaucoup.
Alors Maëlys de Kerangal, venons-en à cette valise proprement dite, en tout cas ce qu'elle contient. Alors c'est le vrai personnage du texte, c'est la valise, autant au moins que la narratrice. Et surtout Selim, son propriétaire, cet architecte égyptien malade, lettré, un peu énigmatique, qui a initié la narratrice au fonctionnement du monde en fait, au fonctionnement égyptien du monde en tout cas, et qui lui a appris ce que sont notamment ces ouchepti. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ouchepti ?
Un ouchepti, c'est quelqu'un qui continue de travailler pour le défunt par-delà sa mort. Donc, plus on était noble, riche, plus on avait d'ouchepti dans son tombeau et plus on était certain d'une...
Quand on était un pharaon, par
quand
exemple.
On était un pharaon, mais aussi un haut fonctionnaire, on était assuré d'une vie éternelle parce que ces personnes allaient justement continuer à labourer, à chasser, en tout cas à travailler. Et alors on les appelait les répondants. Enfin, la traduction d'ouchepti, c'est cette idée de répondant. Et je m'interrogeais beaucoup sur cette idée de répondre. Est-ce que les fantômes répondent? Quel lien on peut aussi établir avec, en tout cas, est-ce que les liens que les Égyptiens établissaient avec l'au-delà? Donc c'est un sujet colossal. Et moi, j'ai essayé de me concentrer sur l'idée que ce garçon, Selim, l'avait initié quand même à d'autres conceptions de l'au-delà. D'ailleurs, il lui dit à un moment donné, mais moi, j'en aurais plein, Douchepti, pour moi, t'inquiète pas.
Mais pas que ça, parce que ces statuettes funéraires deviennent aussi un des nombreux motifs du texte dans l'accompagnement aussi, la façon dont on va les uns avec les autres.
Oui, oui, elle raconte une forme de relation en fait, chacune étant très particulière. Là, dans cette vitrine, on identifie en agrandissant vraiment l'image, en la regardant à la loupe, quelques noms apparaissent, des déesses de la fertilité surtout, qui sont réunis dans cette vitrine. Et c'est vrai que c'est l'idée qu'il y a une espèce de coexistence de la mort et de la vie, en tout cas de ces personnages et des vivants, et que les Égyptiens se préparent à mourir en réunissant ceux qui vont précisément les accompagner, enfin prolonger quelque chose qui est de l'ordre des besoins vitaux. Et ça, je trouvais que c'était très beau, et j'avais envie d'évoquer en fait cette question des esprits. Voilà, cette question des esprits.
Des esprits plus que le legs ou la mémoire.
Oui, la mémoire est assez... Le texte raconte donc les 3 jours que cette narratrice passe à Montréal. C'est une femme qui est scientifique, qui travaille sur l'ARN messager, qui est invitée à participer à un colloque à la faculté de Montréal. Et en fait, le voyage, on est d'emblée dans une forme d'étrangeté. Elle découvre de nuit cette montagne dont elle apprend que c'est un grand cimetière. Et en fait, elle rentre aussi avec ses souvenirs, et notamment l'idée qu'elle se rend compte à l'hôtel que cette valise est celle de son ami, c'est une espèce de prise de conscience. Et à ce moment-là, le texte bascule dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la mémoire, mais qui est de l'ordre de la relation, puisque cette valise, elle s'anime, elle se déplace durant la nuit, et elle a effectivement le sentiment qu'il y a quelque chose qui continue à vivre dans cet objet. Et ça m'intéressait beaucoup, la question des objets animés, la question des esprits, des âmes.
Finalement, est-ce que la photographie ne cache pas, ne recèle pas un sens qui nous échappe toujours, sauf à celui qui peut-être un jour pourra le découvrir? Et donc c'est l'histoire de cette découverte finalement.
Absolument.
Quand on ouvre le texte, on voit cette photo, on se dit ça ne nous dit absolument rien. Et finalement, quand on le referme, on a l'impression de ranger tout le texte dans l'image.
Oui, et cette image, elle apparaît dans le texte parce que elle a servi de marque-page dans un livre que Selim a prêté à la narratrice, qui n'est pas n'importe quel livre, qui est en plus un livre nocturne indien d'Antonio Tabucchi, qui est un livre très, très important pour moi et qui tisse encore autre chose, un autre monde où justement la question des métamorphoses, la question de l'accompagnement dans l'au-delà, etc., pose d'autres questions. Et j'avais le sentiment justement que la sphère, en tout cas, spatiale du livre s'agrandissait. Mais c'est vrai que cette image, on la distingue pas. Enfin, elle est très belle, mais il y a quand même ce flou. Et d'ailleurs, il faut quand même le dire, dans les autochromes, il y a quand même la notion de... On disait tout à l'heure de transparence, mais elles sont voilées, ces images. Et dans ce voile, évidemment, il y a du trouble, il y a du spectral, il y a comme, en fait, on pourrait dire des couches de temps. Et cette image de ces statuettes, photographiées en 1914, mais qui viennent, elles, des tombes égyptiennes ouvertes, finalement, quelques décennies avant, viennent rencontrer, en fait, un sentiment de la mort très contemporain, qui est celui de la narratrice, qui par ailleurs travaille sur des questions scientifiques liées au corps. Et à un moment, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces corps? Nos corps sont comme des valises. C'est pour ça que cette phrase de Tabucchi se retrouve dans le livre. C'est que j'écrivais ce livre en lisant Tabucchi, et à un moment, je tombe sur cette phrase et je me dis, mais c'est vraiment un signe extraordinaire.
Mais justement, l'esprit de la valise, justement, c'est aussi un peu le mouvement lui-même. Ouais. C'est-à-dire, de la même façon que nos corps sont en vie tant qu'ils se meuvent à
Absolument.
L'intérieur ou à l'extérieur. C'est
Absolument.
Un peu cette valise.
Exactement.
En ce sens, elle est vraiment quelqu'un.
elle est quelqu'un, elle, c'est comme, voilà, c'est les humains non humains, on dirait c'est une entité non humaine du livre. Ouais, elle contient tout ça, elle contient la vie de cet homme, mais tant qu'elle s'en souvient, elle, évidemment qu'elle évoque, c'est pas un livre de mémoire au sens où c'est pas un tombeau, hein, ce texte, c'est beaucoup plus, c'est assez différent comme sentiment, on n'est pas du tout dans ce qui aurait pu être tombeau pour un ami égyptien mort, mais plutôt la façon dont elle continue aussi de penser à lui grâce à cette valise, la relation qu'elle a avec cette valise au cours des nuits, réactive aussi les images, les souvenirs qu'elle a de lui et un certain regard sur l'Égypte.
Alors je voudrais qu'on s'arrête un peu sur Antonio Tabucchi parce que... oui et non, c'est-à-dire que on s'y attend pas, mais quand on le trouve là, il y est très bien, on va dire. Et surtout parce que ce nocturne indien, c'est aussi une affaire de voyage, de déplacement vers quelque chose, vers une déception, vers quelque chose qui en réalité n'a pas lieu.
Voilà, exactement. Vers un ami qui se dérobe. Ouais. Mais j'ai mis en lien ces deux textes. D'abord, j'avais très envie, et je le fais souvent, mais c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place, que mes livres fassent des signes explicites à d'autres livres, que de montrer que par mon travail, que c'est un travail qui repose sur d'autres livres, qui parle avec d'autres livres, qui se tisse à d'autres livres. Et ce livre-là, La valise noire, il se tisse avec Nocturne indien, il se tisse avec l'œuvre de Tabucchi en général, mais surtout avec celui-là, puisqu'en fait, c'est vraiment Nocturne indien raconte la quête, un ami, un homme en Inde, un narrateur en Inde qui part sur les traces d'un ami qui ne cesse de se dérober, qu'il croit entrevoir, mais qu'il ne retrouve jamais, il pense l'approcher, et il y a quelque chose d'extrêmement fuyant. Je me permets de dire, c'est un texte d'une très très grande beauté qui, moi, que je trouve un des plus beaux textes que j'ai lus. Et j'aimais beaucoup cette idée de l'ami que l'on cherche, de l'ami un peu inatteignable, de l'ami disparu. Alors, dans Nocturne indien, c'est pas du tout clair. Dans mon livre, voilà, c'est un ami qui est mort. Mais il y a un peu, j'espère, ce même sentiment, c'est-à-dire d'idée qu'on recherche, on cherche à peut-être à retrouver, en tout cas ressentir une présence, la présence d'un ami qui revient par... Alors, dans Tabucchi, c'est plutôt un voyage, il part vraiment sur les traces, il va voir des gens qui l'ont connu, il le cherche, très clairement. Il y a même une petite dimension d'enquête.
Une enquête, ça reprend. Oui, ouais, c'est ça, une enquête.
Là, c'est assez différent, c'est plus par évocation, par couche, par...
Oui, parce que c'est la valise même qui contient tout,
c'est
en réalité.
C'est la valise qui contient tout,
Il suffit qu'elle se vide à nos yeux.
À mesure que le texte avance.
Ouais. Alors, dedans, il y a une petite figurine qui est glissée dans le pyjama de la narratrice. Et donc ça, c'est un peu... j'ai trouvé ça, là, pour le coup, vraiment magique. De se dire que, finalement, nos valises contiennent aussi énormément de notre intimité. C'est-à-dire, le pyjama, c'est avec quoi on dort. Et puis, en même temps, quelques talismans, quoi. Il y a un côté secret, talismanique, dans les couches du pyjama.
Oui, je m'intéresse beaucoup aux objets depuis quelque temps, et à la présence des objets dans nos vies, et à la façon dont les relations qu'on a avec les objets. C'est vrai que les valises, on peut toujours se demander... Moi, j'ai toujours un peu ce sentiment de pouvoir me tromper de valise, de pas repartir avec ma valise quand je prends l'avion, mais surtout maintenant dans le train. Vous voyez, on attrape sa valise dans le rack. Et alors, qu'est-ce qui se passerait si j'ouvrais la valise d'un autre? Est-ce que je pourrais reconstituer sa vie à partir d'une crème hydratante, d'une paire de pantoufles, d'une lecture, voire d'objets, des médicaments, par exemple? C'est toujours assez mystérieux. Ça m'est arrivé une fois de trouver un sac, par exemple, et j'avais trouvé que c'était une espèce de position assez romanesque, et je me dis toujours, est-ce qu'on arriverait à me dessiner, à me trouver dans ma valise? Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, cette idée que les objets assemblés, l'agencement des objets, produit du portrait, d'une certaine manière.
Mais est-ce que c'est pas justement ce que faisaient les anciens Égyptiens en mettant dans leur tombeau un peu tous leurs objets autour d'eux pour simuler un peu l'existence ou la vie, ou la résumer, ou en tout cas, ou la préparer?
ou pour se représenter. Enfin, il y a une notion de représentation dans ces tombes égyptiennes. Je me souviens avoir vu la tombe de Kaemerit qui est au musée de Turin, au musée égyptien de Turin. C'est très très fascinant. C'est intéressant cette tombe parce que c'est justement pas une tombe de pharaon. C'est la haute bourgeoisie. Hein. Il est architecte du pharaon. Et donc dans sa tombe, c'est de la représentation. Quoi. C'est vraiment des éléments qui vont finalement dire qui il est, ce qu'il aime. Ça fonctionne un peu comme un autoportrait, ces éléments rassemblés. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant. Alors là, j'ai longtemps regardé cette image. Je cherchais à en apprendre plus sur l'autochrome que j'avais choisi. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des ouscheptis qui sont sur cette image. Ce sont vraiment des figurines de dieu et de déesse. Et voilà, donc j'ai essayé aussi de rester assez fidèle à l'image en montrant comment aussi ces petites figurines placées dans les tombes fonctionnent aussi comme des porte-bonheur, comme des amulettes. Et moi, je suis assez sensible à ça, à cette idée qu'on a des objets. Moi, j'ai toujours plein de choses dans mes poches. Voilà. Et il y a souvent, là, je crois que j'ai une petite chouette en métal au fond de ça, des petites choses que l'on glisse dans ces affaires et qui... c'est cette idée du talisman que j'aime beaucoup.
Mais Maïlys de Kerangal, il y a aussi peut-être l'écueil sur lequel vous ne fracassez pas votre navire, c'est que vous ne décrivez pas toutes ces déesses, ces dieux et tout ça. Vous ne faites pas de la mythologie égyptienne. Là, c'est vraiment en acte, au contraire. C'est-à-dire c'est la réalité, un peu de la possibilité offerte par ces ouscheptis. Mais il n'est pas non plus question de mythologie là-dedans.
Non, pas du tout. Et d'ailleurs, la narratrice en serait bien incapable, d'une certaine manière. D'ailleurs, quand elle tombe sur cette image qui dégringole du nocturne indien, que lui a tendu son ami à l'hôpital en lui disant « Tiens, lis ça, c'est le plus beau livre du monde », elle le prend un peu machinalement, elle a un peu d'attente à Montréal, l'image tombe, et en fait, elle serait bien incapable de tout reconnaître. Elle se souvient vaguement que c'est cette vitrine qu'ils avaient vue ensemble, et quelques noms apparaissent, mais il ne s'agit pas du tout de travailler une veine mythologique. Je m'y risquerai pas non plus, je dois dire. J'ai quelques points de contact avec cette narratrice et là-dessus, on est d'accord.
Mais j'aimerais justement qu'on revienne un peu sur cet ARN messager, qui me semble quand même non seulement symbolique, mais aussi extrêmement, puisque c'est à partir de cet ARN messager qu'on a fabriqué, bien sûr, les vaccins qui nous ont sauvés au moment de la pandémie. Donc il y a quand même aussi quelque chose là, peut-être. Pas encore de mythologique, mais qui pourrait le devenir. On est vraiment dans une forme de mythologie contemporaine, très très d'aujourd'hui.
Mais rien que ce nom.
Ouais.
Rien messager, que ce nom. Ouais, c'est l'ARN messager. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Quel message ça porte? Qu'est-ce qu'est le message? En fait, ceux qui portent des messages, ce sont les fantômes. Hein. Les fantômes sont là. Les fantômes qui entrent dans nos vies sous la forme d'un revenant. Bon, ils nous apportent des messages. Alors, on peut les identifier ou pas. Parfois, ils sont pas là. Mais quand on a le sentiment qu'il y a un message là devant nous, cette image, je l'ai un peu... Je l'ai saisie un peu comme un message. Vous parliez tout à l'heure d'énigme. Elle a ce côté énigmatique. ARN messager, c'est resté... très longtemps, vraiment, un mot complètement énigmatique, et vraiment, on n'entendait que messager, avec cette idée, justement, du vaccin. On vous pique la fléchette, l'idée de la piqûre, on vous pique, on vous envoie, justement, ce vaccin. Et là, je trouvais que ce petit texte, enfin, c'est un texte qui est assez bref, mais il compose un matériau organique qui me plaît beaucoup parce qu'en fait, il n'y a pas un élément qui n'est pas en contact avec les autres. Chacun fait signe à la fois au livre, à l'autochrome, à la flèche, à la piqûre, aux messagers, aux esprits, aux contenants, à toutes ces choses qui accompagnent nos vies.
Mais Maïlys de Kerangal, on retrouve chez vous aussi à la fois ce grand désir du contemporain, de la vie d'aujourd'hui telle qu'elle nous apparaît, mais de la relier avec quelque chose de plus profond, qu'on pourrait dire presque de l'éternité de l'âme humaine, ou en tout cas un passé très, très ancré en nous.
Oui, je trouve que c'est peut-être la littérature qui, je dirais pas seule, permet ça, en fait, par le biais de l'écriture, du langage, en fait, de parvenir à relier ce qui nous arrive dans le présent avec un soubassement mythologique, mythographique, extrêmement puissant et qui nous aide à penser d'ailleurs ce que l'on éprouve. Évidemment, là, c'est un texte qui parle de la mort, mais qui parle aussi de l'idée de ce qui continue d'une certaine manière, de ce qui, pas vraiment, je pourrais pas dire de ce qui survit, mais de ce qui est toujours activé dans le présent. Voilà, ces statuettes, elles activent encore quelque chose dans le présent, de même que pour les Égyptiens, les Oujbétis activaient quelque chose dans le présent. Et c'est vrai que j'ai regardé cette valise comme un espèce de matériau vraiment pas radioactif, mais presque, quand je me suis rendu compte à un moment, je me suis dit, mais c'est sa valise qui est là, et je l'ai emmenée, elle est du Caire à Montréal, elle a traversé plusieurs continents et plusieurs mers avec moi, et maintenant elle est là, et on est sous cette colline qui est un cimetière, etc. Je trouvais, voilà, que j'essayais de penser ce sentiment qui était un sentiment très intrigué, déjà, j'étais extrêmement intriguée, et aussi émue. Et voilà, et c'est vrai que pour moi, la littérature permet de capter ça. C'est peut-être un des seuls endroits où on peut l'attraper, la peinture aussi peut-être. Mais dans le langage, on peut le faire.
Merci beaucoup, Maïlys de Kerangal. Et merci beaucoup, Adrien Genoudet, directeur de la collection Fléchette des éditions Sensen. Un enfant vu de dos et La valise noire sont donc parus aux éditions Sensen. La conversation littéraire est réalisée par Laure-Hélène Planchet avec Mathieu Bérény à la technique aujourd'hui. La préparation en est assurée par Aurélie Marseille. Nous nous retrouverons la semaine prochaine à la même heure, mais d'ici là, vous pouvez bien sûr réécouter ou podcaster la conversation littéraire sur l'appli de Radio France et le site de France Culture. Bon canapé, bonne lecture et bonne fin de journée sur France Culture.